se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, la botte de 500 grammes d'asperges blanches-violettes est à seulement 3,69€.
À ce prix-là, je pense déjà à mon velouté d'asperges. Mes invités vont en voir de toutes les couleurs.
C'est ça le printemps.
Bon bah je vous laisse, j'ai des courses à faire.
Et ça, c'est le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 3,69€ la botte de 500 grammes d'asperges blanches-violettes, soit 7,38€ le kilo. Origine France, catégorie 1, calibre 16-22. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Carrefour. Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Vous venez de nous rejoindre sur RMC. Bienvenue en ce samedi matin, en ce 11 janvier. Tout à l'heure, vous retrouverez le docteur Christian Riquia et puis Raphaël Grabli enchaînera avec la vie numérique. Vous le savez, comme chaque samedi, c'est ça le week-end des experts, les meilleurs experts qui sont là pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Et puis demain dimanche, 3 heures d'auto avec Jean-Luc Moreau, bien entendu. Et juste après le jardin, maintenant, c'est la maison. Mais et la maison, c'est avec, vous l'avez entendu, ce mais oui qu'on reconnaîtrait. Mais même au fond d'un ascenseur. Lui, c'est Christian Pessé.
Eh bien, bonjour, mon cher François.
Christian Pessé, notre expert maison qui est là jusqu'à 8h.
Jusqu'à 8h.
Tout va bien ?
Ah ben, tout va très bien.
Bon, Christian, dans un instant, vous allez nous expliquer comment installer une machine à laver.
Oui, ça paraît peut-être basique, mais pour certains, c'est un vrai problème.
Et puis, on évoquera tout à l'heure les nouveaux revêtements de sol textile.
Oui, on va parler notamment moquette, mais maintenant on va voir qu'il y a des quantités de produits qu'on ne peut plus qualifier directement de moquette. On va voir ça avec Christophe Pouille, qui est porte-parole de l'UFTM, l'Union Française des Tapis et Moquettes, justement, dans le titre, il y a encore cela, et puis qui par ailleurs est directeur adjoint de Balzan.
Très bien. Eh bien, vous pourrez poser d'ailleurs dès maintenant toutes vos questions sur ces nouveaux revêtements de sol, donc les moquettes, les tapis, etc. Quelles sont les tendances, tiens ? Quels sont les textiles qui fonctionnent bien ? C'est vrai que la moquette a été un petit peu, on va dire, malmenée ces dernières années. Est-ce que ça revient à la mode ? On verra ça tout à l'heure.
On va voir que les formes en plus évolue, notamment la modularité. On verra ce que ça veut dire.
La modularité, voilà. Dites-moi. On retrouvera aussi votre actualité coup de gueule de ce samedi, Christian.
Oui, bah écoutez, comme tous les ans, je vais pousser un coup de gueule sur le fait que les détecteurs monoxyde de carbone ne sont toujours pas obligatoires, que les gens oublient d'en installer. Et il y a comme ça des milliers de victimes et il y a des centaines, il y a plus de 100 personnes qui tous les ans passent de vie à trépas à cause de cela.
De manière stupide. On est d'accord.
Et les victimes, c'est-à-dire ceux qui ont été intoxiqués, le sont des fois à vie, durablement. C'est-à-dire ça fait beaucoup de handicapés.
Tout à fait, évidemment.
Parce que
ça a des dommages cérébraux.
Pour des raisons obscures, les parlementaires s'obstinent à ne pas le rendre obligatoire.
On en parle tout à l'heure. Vos questions, maison 3216, l'appli RMC, Direct Studio. Vous le savez, on est là jusqu'à 8h avec Christian Pessé. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
RMC. Le week-end des experts.
Et avant de retrouver la machine à laver de Christian, mesdames, messieurs, avant tout cela, c'est Joël que nous accueillons au 32-16. Bonjour Joël.
Bonjour.
Oui, bonjour Joël.
Bienvenue Joël sur RMC.
Merci.
Et vous nous appelez du Loiret.
Oui.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, Joël ?
J'aurais voulu avoir votre avis. Voilà, j'ai acheté un appartement sur Orléans au printemps 2019, qui est en construction depuis 2017. Et lors de la première visite, alors que c'était en chantier, je me suis aperçu que la porte de la baie vitrée était à gauche, alors que sur le plan que j'ai signé chez le notaire, était à droite.
Ah, elle était à gauche, c'est-à-dire elle était à gauche dans la pièce, au lieu d'être à droite dans la pièce.
Oui, c'est une baie vitrée qui donne sur la terrasse.
Oui.
Et la porte, sur le plan que j'ai signé chez le notaire, s'ouvre à droite, côté radiateur. Donc, ça gênait en rien d'après le plan pour les rangements et l'installation des meubles. Alors que là, en réalité, aujourd'hui, elle est à gauche.
Oui.
Ce qui empêche de bien ranger, d'installer le salon. Et j'ai repris l'appartement, donc j'ai repris les clés en novembre 2019,
oui.
C'est-à-dire il y a quelques temps.
Mmh.
Et ils n'ont jamais voulu que je signale le défaut de la porte.
Comment ça, ils n'ont jamais voulu que vous signaliez? Bah, vous vous êtes libre de signaler non. Dans votre PV de réception. Fallait dire, je constate que la
voulu,
porte.
J'avais ma nièce avec moi, ils n'ont jamais voulu.
Non, mais ils ont. Attendez. Non, mais vous pouviez écrire la main sur le. C'est pas le promoteur, ce n'est pas l'entreprise qui vous
oblige.
Ah oui, bien sûr. Ce qu'il doit y avoir dans un PV de réception, ben, sinon ça serait
ben,
plus.
Ah oui, je sais pas. Oui.
Ah bah oui, mais c'est ça qui va pas. C'est-à-dire que vous vous êtes laissé intoxiquer, pardonnez-moi, je veux pas vous accabler, hein, mais vous vous êtes laissé intoxiquer par quelqu'un qui vous a effectivement intimé des ordres qui n'avaient pas lieu. Mais de toute façon, vous aviez un contrat avec un plan.
Oui.
Donc dans ce plan, la porte, elle est du côté que vous vouliez.
Oui.
Et ben alors...
chez le notaire. Et aujourd'hui ben, il me dit... Alors, moi, j'ai renvoyé un mail comme quoi ils avaient refusé ma notification. Donc, je leur ai signalé quand même par mail le refus.
Ça vaut rien.
La porte était de mauvais côté. Bon, OK, merci. Mmh. Et puis ensuite, aujourd'hui, ils me disent, ben non, nous, on avait un autre plan. Et aujourd'hui, c'est le plan qu'on a déposé, qu'on a remodifié pour le permis de construire. Et aujourd'hui, on peut rien faire. Pour...
Alors, je ne sais pas s'ils peuvent faire, parce qu'il y a peut-être effectivement une contrainte qui fait que c'est impossible à réaliser. Alors, deux solutions, de toute façon. Un, il va falloir que... vous commencez à montrer les dents, c'est-à-dire envoyer une lettre, au minimum une lettre recommandée avec accusé de réception, au constructeur pour lui dire que vous ne revenez pas sur le fait qu'ils n'ont pas voulu le porter dans le PV. Vous dites simplement que vous constatez la réalisation n'est pas conforme au plan que vous avez accepté. Si vous avez bien un document qui montre que le plan était tel au moment de votre contrat. À partir de là, vous allez leur demander, leur intimer l'ordre de remettre la porte là où elle doit être. Et s'il y a des contraintes techniques qui, évidemment, par rapport au permis de construire, empêchent de le faire, eh bien, vous allez leur demander une indemnité.
Voilà, et si vous voulez joindre Christian PC, le 3216, tout comme Joël, hein, d'ailleurs, hein, 3216, le standard, vous avez l'appli RMC Direct Studio, n'hésitez pas à nous appeler, il est temps maintenant de retrouver le conseil de l'expert de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Christian, je vous sens essoré.
Bah écoutez,
aujourd'hui.
Oui, je suis essoré, mais là, je
ne sais pas ce qui se passe.
KO avec ce qui m'est tombé sur la tête, là.
C'est vrai? Vous quoi, la machine à laver?
Bah non, je sais pas, c'est du béton. Il n'y a pas de machine à laver en béton encore.
Non, mais je croyais que vous étiez KO parce que vous aviez reçu une machine à laver.
Ah
sur
non, ça n'était peut-être une machine à laver. Je sais pas, il va falloir voir en régie ce qu'ils nous ont envoyé.
Alors, Christian, oui. Comment installer une machine à laver? Cette question paraît comme ça, c'est anodine.
Oui.
Mais malgré tout, vous vouliez remettre un petit peu l'église au milieu de la plage, du village.
Oui, mais pourquoi? Parce que ça paraît évident quand on prend un logement récent ou un logement neuf ou un logement, j'allais dire, postérieur aux années 70. Mais avant les années 70, ben, il n'y a pas d'endroit pour mettre la machine à laver. Donc, régulièrement, la machine à laver le linge, parce que la vaisselle, on arrive à l'encastrer sous le plan de travail, oui. etc. Mais au niveau du lave-linge, eh bien, on est généralement obligé de mettre ça dans la salle de bain. Alors, évidemment, là, ça pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il va falloir assurer son alimentation en eau froide, parce que en France, les machines à laver le linge et la vaisselle s'alimentent en eau froide. Je dis ça parce que il y en a quand même qui s'alimentent aussi en eau chaude, et notamment en Angleterre, dans tout le monde anglo-saxon.
C'est mieux ou pas?
Ça permet peut-être, quand on a notamment de l'eau chaude avec un ballon d'accumulation, un cumulus comme on dit parfois, ça permet d'utiliser de l'eau qui est disponible
qui est déjà
et qu'on n'a pas besoin
en fait.
De réchauffer.
Voilà, parce que ça coûte de l'électricité,
voilà,
évidemment.
Voilà. Les Anglais prennent cette position. Donc il va falloir installer le raccordement à l'eau froide, il va falloir installer le raccordement de l'évacuation, et puis il va falloir installer aussi une prise ou se raccorder une prise existante. Alors l'idéal, c'est de pouvoir installer la machine à proximité d'une canalisation d'eau froide qui passe. On peut amener évidemment une canalisation spécifique, mais c'est un peu du boulot. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, dans la plupart des cas, se raccorder avec un robinet auto-perceur sur la canalisation. Alors attention, il faut d'abord couper l'eau, c'est quand même mieux. Hein, et puis on va avoir une bride qu'on fixe avec deux vis sur la canalisation. Et puis dessus, on visse le corps du robinet et le robinet lui-même avec, il y a une tige avec des petits... des petites
petites lames et qui permettent de perforer donc en vissant correctement jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Voilà. Et en faisant attention, parce qu'il y a certains robinets, c'est pas toujours très simple de les aligner avec l'endroit qu'on veut raccorder. Alors, raccordement ensuite de la machine, il se fait simplement. C'est généralement inflexible. C'est inflexible. Et avec un écrou, vous savez, qui est simplement à ailette, c'est un écrou en plastique. En fin de compte, l'étanchéité se fait très, très facilement. Donc, voilà pour l'alimentation. Pour l'évacuation, eh bien, là aussi, on essaie de se raccorder à une évacuation existante. On prend des tubes de PVC de 32 mm. De diamètre qui sont repiqués sur l'évacuation de la baignoire, de la douche ou du lavabo à proximité. Dans certains cas, il va falloir installer un tube au niveau de la plinthe avec une pente. Moi, je donne une pente toujours de 2 cm pour que l'eau puisse s'évacuer correctement. Alors, lorsqu'on va avoir donc cette arrivée, on va mettre un siphon. Mais le siphon, il est au niveau donc de l'évacuation. Je vais dire horizontal, et repart un tube vertical. Alors ce tube vertical, il faut qu'il fasse au moins 60 cm par rapport au siphon qu'on a installé. Et on va simplement dedans faire rentrer, il n'y a pas besoin de faire de raccordement, faire rentrer le tube d'évacuation sur à peu près une quarantaine de centimètres. Et vous savez, il y a un petit support qui est en demi-lune qui permet justement de déposer le tube et de le bloquer.
Donc la pompe de la machine est puissante. Pour remonter ça.
C'est une pompe assez puissante et ça va permettre donc une évacuation tout à fait correcte. Il faut faire attention à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans le siphon. C'est-à-dire si vous n'utilisez pas souvent votre machine à laver, sinon vous allez avoir des remontées d'odeur. Donc il ne faut pas hésiter s'il y a un moment que vous n'avez pas utilisé la machine à verser tout simplement un verre d'eau en haut de la canalisation d'évacuation. Ça remplit le siphon et ce remplissage fait le bouchon d'eau.
Obstruer en fait.
Qui empêche donc leur montée des mauvaises odeurs. L'électricité, alors là c'est quand même le plus alors ça peut paraître le plus simple, mais c'est quand même le plus délicat. Il faut normalement une ligne spécifique avec en tête un disjoncteur différentiel de 30 milliampères et surtout il est indispensable qu'il y ait un raccordement à la terre. N'installez jamais une machine à laver dans la salle de bain si vous n'avez pas une prise avec un raccordement à la terre. Et la machine doit être installée à, en gros, on va dire 60 cm, c'est dans la zone 3, puisqu'il y a des zones dans la salle de bain, 60 cm de la baignoire ou de la douche minimum. Je reviendrai prochainement sur, justement, la notion de zone de sécurité dans la salle de bain. Ça a évolué il y a pas très longtemps, il y a quelques années, et c'est quand même très important, parce que là, c'est votre sécurité qui en dépend. N'oubliez pas qu'une pièce, une salle de bain, c'est humide, évidemment. Le mieux, c'est encore de pouvoir monter, de bien mettre une paroi de douche, ou même pourquoi pas de monter si on a la place. Oui. On monte une cloison sur jusqu'à 2 mètres, par exemple. On monte une cloison, par exemple, en carreau de plâtre, et là, ça vous assure la sécurité. Si vous avez cette cloison, d'ailleurs, vous n'avez plus besoin des 60 cm d'espace qui permet de gagner aussi de la place.
Christian, on revient dans un instant.
Mais oui, avec plaisir, on va parler revêtement textile.
Très bien. On ne va pas fumer la moquette.
Bah, peut-être vous, parce que vous avez l'habitude, mais pas moi.
Oh, Christian, ça c'est pas gentil, franchement. Dans un instant, les nouveaux revêtements de sol textile et les moquettes, forcément, d'où cette petite plaisanterie. On revient juste après la météo sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Un excellent samedi avec RMC. Merci d'être là, fidèle au poste et fidèle à votre week-end des experts. Tout à l'heure, Christian Ricca sera là, fidèle évidemment à ce rendez-vous dédié à la santé. Et juste après, ce sera Raphaël Grably. Christian, notre dossier de ce samedi matin dans ce rendez-vous maison, on va évoquer les nouveaux revêtements de sol textile.
Oui, parce que ça a beaucoup, beaucoup évolué. La fabrication, les nouveaux formats, les nouveaux designs, les couleurs qui tiennent mieux, etc. Et nous avons donc avec nous Frédéric Pouille, bonjour.
Bonjour, c'est Christophe, non
Christophe, je crois. Christophe, oui, c'est un classique. Vous savez.
Pourquoi vous l'appelez Frédéric, il s'appelle Christophe. Ouais. Je suis désolé. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de fumer la moquette.
Voilà, hein,
c'est, ben voilà c'est, je pense ça, que là, nous avons quand même un exemple bien précis
tout
de
à fait, oui,
Christian.
Christophe, évidemment, je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé Frédéric. Vous êtes porte-parole de l'UFTM, donc l'Union Française des Tapis et Moquettes, et par ailleurs, vous êtes DG adjoint de Balzan. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, dites-moi, la moquette, c'est basique. Tout le monde connaît depuis longtemps. Et maintenant, vous arrivez avec notamment de la communication sur nouveaux revêtements des sols textiles. C'est du marketing ou il y a vraiment quelque chose qui a bougé?
Alors, il y a effectivement pas mal de choses qui ont bougé. On a tout d'abord souhaité ne pas être restrictif.
Oui.
La moquette est un sol textile, mais comme peuvent l'être le tissé plat, le floc ou l'aiguité. Donc, on a voulu être plus large. Et puis surtout, on s'est dit qu'on arrivait maintenant avec un nouveau style. On est capable aujourd'hui de traiter beaucoup mieux les problématiques d'acoustique, de design.
Ça, c'est important, l'acoustique. Hein. Je pense que j'en parle souvent. Je dis souvent qu'il y a un problème de bruit. Payez de la moquette à vos voisins. Hein, c'est régulier,
exactement,
ça.
Donc,
surtout s'ils mettent des talons.
Oui, mais il ne faut pas se priver du charme quand même d'une belle déambulation en talons dans un appartement. Donc, il faut le faire chez soi,
ah oui.
Ne pas gêner le voisin, justement.
Ouais, quand on est en dessous, on s'en fout, on n'entend que les bruits, on ne les voit pas, les talons, c'est ça le problème.
Ah, ben c'est pour ceux qui n'ont pas mis de moquette, oui, on est bien d'accord.
On est d'accord.
Et donc, oui, acoustique, mais ça, d'ailleurs, ça permet aussi peut-être une correction de l'acoustique des pièces, ce n'est pas seulement le problème d'isolation.
Alors effectivement, sur l'acoustique, les gens ont tendance à traiter souvent le transfert du bruit d'un étage à l'autre sur une unité qu'on appelle le décibel. Par contre, on oublie très souvent au sein même d'une pièce la transmission du bruit qui se mesure d'une autre façon. Donc quand vous devez équiper un endroit d'un sol quel qu'il soit, n'oubliez pas de bien regarder les deux valeurs, à savoir donc effectivement la transmission du son et l'absorption acoustique.
Ah oui, c'est pas la même chose. Hein.
C'est pas la même chose du tout. Les deux sont complémentaires et n'en traiter qu'un, c'est vite avoir les oreilles cassées.
Évidemment. Alors, nouveaux matériaux, c'est quoi? Parce qu'on se souvient de la moquette laine, alors en verre latex, on avait, je sais pas si ça existe toujours, et puis le polyamide, etc. Il y a vraiment des nouveaux matériaux?
Alors, il y a des nouveaux matériaux en ce qui concerne les typologies de fibres, où effectivement l'offre s'est fortement élargie, mais on a aussi une nouvelle approche. On peut parler de modularité, qui permet aussi de la flexibilité dans des choix de composition design que tout à chacun peut faire d'une façon tout à fait libre, ce qui n'était pas tout à fait le cas quand la moquette n'était disponible que en ce qu'on appelle en wall-to-wall, de mur à mur, donc en 4 mètres ou en 5 mètres de large.
Alors, revenez là-dessus sur la modularité, parce que là, on imagine effectivement les grands laits, mais alors là, c'est quoi? C'est de la dalle, mais la dalle, c'est fait pour les bureaux, non? C'est pas...
La dalle a démarré dans le bureau,
oui.
Mais aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est de trouver un produit qui soit doux, qui soit confortable, et qui existe aussi aujourd'hui en dalle, avec des couleurs justement un peu plus poudrées, un peu plus dignes d'un intérieur, pouvant se rapprocher d'un boudoir ou de ce que l'on veut. En tout cas, il y a un choix de...
Oui, c'est monté en gamme, ça fait plus la dalle, enfin, ça fait plus la tapisserie bas de gamme des entreprises qui étaient pas terribles, quoi.
Tout à fait, on avait beaucoup de dalles, et c'est encore le cœur du marché pour le bureau, qui sont de la dalle dite bouclée. Par contre, le consommateur à domicile préfère des produits qu'on appellera plutôt velours ou coupé. Et aujourd'hui, oui, vous trouvez des belles offres de dalles à velours coupé, qui vous apportent donc du confort et de l'élégance. C'est effectivement une évolution.
C'est bien la dalle ou pas, Christian?
Oui, moi je trouve que c'est bien. Alors, c'est de la dalle... Alors, je vais prendre un terme technique. Hein,
allez-y, Christian, faites-nous rêver.
C'est de la dalle plombante, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être collée, que l'on pose simplement et qui tient par son poids.
Tout à fait, vous apportez là, ici, un nouvel avantage. On n'est plus dans cette logique d'il y a 25 ans où on devait tout coller. Aujourd'hui, effectivement, un double face pour stabiliser ou tout simplement avec son poids, si on fait toute une surface, sont amplement suffisants. On a parlé de dalle, mais n'oublions pas de parler aujourd'hui aussi de lame.
Ah oui, j'ai vu ça. Alors ça, c'est...
Dans
c'est
le studio, c'est ce qu'on a. Excusez-moi, je suis en train de regarder par...
Nous, c'est de la dalle par terre.
C'est de la dalle. Hein.
C'est ce que vous avez.
En plus, c'est joli parce qu'on voit que c'est pas de la. Enfin, c'est de la tapisserie un petit peu. un petit peu sympathique, quoi.
Pas vraiment de la tapisserie.
Excusez-moi. Non, mais c'est du tissu, qui est quand même assez qualitatif, on va dire. On voit qu'RMC a mis des moyens,
n'est-ce pas,
on a une belle moquette.
Non, mais François, je vous remercie de ce commentaire, parce qu'on arrive effectivement dans la dimension design ou dans la dimension profondeur que vous trouvez sur le sol textile et que vous ne trouvez pas nécessairement sur d'autres produits.
On peut revenir sur les lames. Alors, c'est des lames, c'est-à-dire c'est des bandes. C'est des bandes de combien sur combien ?
Ben, c'est des rectangles. Le standard marché veut qu'effectivement ce soit du 100 x 25, puisque les dalles sont en général en 50 par 50. Et donc, vous pouvez faire justement vos créations de calepinage en combinant de la lame et de la dalle. Et sur des pièces de 20-25 mètres carrés, vous pouvez vous faire plaisir en ayant quelque chose d'original et qui reflète votre personnalité.
J'ai vu aussi, alors parce que je me suis renseigné un peu quand même, j'ai vu aussi qu'on pouvait maintenant avoir de l'impression, c'est-à-dire du motif à la demande pratiquement. On peut avoir, je sais pas, une photo, on peut avoir un motif soit personnel.
Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, l'impression numérique a permis au sol textile de rentrer dans des nouvelles souplesses.
L'impression numérique, alors, mais c'est pas soi-même qui l'imprimons, ça, hein.
Non. Pas encore.
Vous n'avez pas une imprimante à moquette chez vous, Christian?
On réfléchit à la création de l'imprimante 3D.
Ben oui. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que je fais? J'envoie une photo? Expliquez-moi.
Tout à fait. C'est ensuite converti dans des formats informatiques qui permettent, comme une imprimante à la maison, mais au lieu d'imprimer sur du papier, vous allez imprimer sur un sol textile.
Mais alors, il faut quand même qu'il y ait une surface minimum. On ne fait pas ça pour 15 mètres carrés, j'imagine. Pas encore,
mais on est passé de ce qui était il y a encore 10 ans à 1000 mètres carrés, aujourd'hui à 100 mètres carrés, donc je pense que très rapidement...
100 mètres carrés, c'est votre cuisine, c'est ça, mon cher François?
Oui, 120 mètres carrés,
120,
pardon.
120, oui.
Là, je vous en veux pas d'avoir oublié les 20 derniers mètres.
Non, mais 100 mètres carrés, ça fait... Effectivement, bon, c'est peut-être, il n'y a pas beaucoup de pièces de 100 mètres carrés, mais il y a des apparts de 100 mètres carrés, en tout cas.
Tout à fait. On se rapproche de plus en plus vers la possibilité de couvrir toutes les tailles de besoin.
Quelles sont les pièces où on met le plus de moquettes, en fait? C'est toujours les chambres?
Ça reste majoritairement la chambre à coucher, mais les pièces à vivre aujourd'hui, grâce justement aux nouvelles fibres que l'on appelle ratin-masse, qui sont très solides et qui permettent une très belle maintenance et qui n'ont pas peur des agents d'entretien.
Ratin-masse, ça veut dire quoi?
En fait, c'est que la couleur est à l'intérieur du fil et elle n'est pas autour du fil.
Ah oui.
Ah,
si vous m'autorisez une petite image que l'on utilise auprès de beaucoup de personnes, si je vous parle d'un radis, vous voyez tous ce que c'est.
Oui.
Il y a du rose à l'extérieur, il y a du blanc à l'intérieur.
Même si j'aime pas trop ça, mais je vois à quoi ça ressemble.
Mais quand je vais gratter le rose, il se peut qu'on arrive sur le blanc.
Alors que là, on a des radis roses complets.
Et donc, si vous prenez la carotte, qui est le tamas, je vais pouvoir gratter toute la profondeur de ma carotte, je serai toujours sur mon orange.
J'espère que Patrick Mioulan écoute, qui n'est pas complètement parti là, parce que ça le regarde quand même. Mais
félicitations à Christophe quand même pour cette belle analogie, on comprend tout de suite.
Non mais c'est sympa, c'est vrai, on comprend tout à fait. Et ça coûte plus cher ou c'est pareil?
Non, c'est la même chose. C'est deux technologies différentes pour des besoins différents. On ne va pas dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est des technologies complémentaires. Le fil que j'appellerais radis vous permet de faire l'impression que vous souhaitez. Vous avez donc un accès à une palette coloristique fantastique avec des aspects beaucoup plus chatoyants. Le fil tamas sera plutôt un fil retenu pour de la maintenance et peut-être moins pour des côtés brillants.
Christian,
oui.
La moquette, c'est bien sympa. On voit monsieur, c'est son métier. Donc, il va pas nous dire que c'est pas bien, hein. On est d'accord. Mais la moquette, malgré tout, est-ce que ça attrape pas la poussière? Est-ce que ça attrape pas les acariens? Est-ce qu'elle attrape pas tous ces trucs-là?
Alors, je pense que c'est ce qui va être répondu.
C'est pas un nid à bébêtes, ça, la moquette?
Alors, moi, je pense que non, si on l'aspire régulièrement. C'est-à-dire qu'évidemment, si on n'entretient pas son sol, il va y avoir de la poussière ou des débris qui vont s'accumuler dedans. Mais
si notre producteur me demande combien de fois par an il faut qu'il aspire sa moquette.
Une fois par semaine?
Une fois par semaine, c'est bien. En tout cas, je remercie François.
Gilles le fait deux fois. Hein.
D'accord, ben merveilleux.
Par semaine.
Je remercie François de cette question, parce que ça nous permet peut-être de chasser un petit peu les idées reçues. Toutes les études démontrent que les acariens ont besoin de nourriture. Et on trouve ça dans le lit, dans le canapé et dans le fauteuil de voiture. Donc avant de dire la moquette est coupable, peut-être peut-on regarder les autres endroits à traiter pour chasser les acariens.
Oui, mais enfin, ça n'empêche pas de se dire qu'il y en aura aussi dans la moquette.
Sauf que dans la moquette, l'acarien va mourir puisqu'il ne va pas trouver de source de nourriture. Alors que dans votre lit...
Ah, il va trouver vos débris de peau.
Exactement.
Ouais, mais la moquette, alors, écoutez, bon, on a tous des familles, etc. Là, moi, j'ai un immense tapis qui est où il y a une table basse dessus où on mange, ouais. Vous savez, parfois, on dîne le soir. Bon, autant vous dire que parfois, il y a des miettes de pain qui tombent sur le tapis. Alors, même si on aspire tout le temps, ça donne quand même à manger à tous ces acariens, là, non?
Non, parce qu'ils ne se nourrissent pas de pain.
Ah, ils ne mangent pas le pain.
Ils ne mangent pas le pain.
Ils n'aiment pas ça. Ils sont en régime. Moi, j'ai des acariens no gluten.
Vous pensiez que vous éleviez là troupeau d'acariens.
Un troupeau d'acariens en leur donnant du pain. Comme aux oiseaux. Eh bien, non. Mais ça mange quoi alors? Ça mange
des
résidus organiques.
Des squames de peau.
Ça mange que ça? Tiens, d'accord. Mais quand on se balade pieds nus? Ah, là je vous coince, Christophe. Quand on se balade pieds nus sur la moquette, ça nous arrive.
Eh ben, il faut l'aspirateur.
Voilà, il faut l'aspirateur. Ah. Et cet aspirateur, plutôt aspiro-brosseur d'ailleurs, c'est ce qu'on recommanderait, va vous permettre d'avoir au final un sol qui sera plus sain qu'un sol lisse. Pourquoi ? Parce que la moquette va emprisonner les poussières allergisantes qui vont donc passer de la moquette à l'aspirateur. Alors que sur des sols lisses, quand vous allez passer juste un petit coup de balai, vous allez créer une dépression d'air et la poussière qui était au sol pourrait remonter à votre nez.
L'avantage d'un sol lisse ou par exemple d'un parquet, c'est qu'on voit ce qui se passe plus ou moins. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des moutons, de poussière. Enfin, on voit la poussière qui s'en va. Sur une moquette, on ne voit pas trop. Sur un tapis, on ne le voit pas. On est d'accord. C'est différent. Là, je me fais un peu l'avocat du diable. Hein.
Il doit y avoir des produits de traitement aussi, non ? Qui existe pour les moquettes?
Alors, il existe effectivement certains produits. Maintenant, aujourd'hui, en termes d'industrie, nous faisons très attention à ne pas rajouter et multiplier la chimie.
Les COV.
Quand on parle d'intérieur, aujourd'hui, la moquette ne contient pas de COV. Et par contre, vous avez tout autour de vous suffisamment de choses. Je ne veux pas attaquer nos amis du meuble, mais sur lesquelles on peut se poser beaucoup de questions par rapport aux émissions de COV.
Mais alors justement, les COV, est-ce qu'il y a aussi une tendance vers la moquette plus naturelle, vers le retour à de la laine?
La moquette
non traitée,
bio. C'est ça. Vous voulez la moquette
est-ce
bio?
Est-ce que ça existe, la moquette bio?
On va pas parler encore de moquette bio, mais par exemple, la partie principale de composition d'une moquette, c'est son fil. Oui. Et vous allez voir qu'un certain nombre d'acteurs proposent aujourd'hui des moquettes faites à partir de fils recyclés. Il faudra évidemment faire attention à bien choisir du polyamide, qui lui est recyclable à 100%, ce qui n'est pas le cas de tous les autres.
C'est quoi ce qui n'est pas recyclable? C'est le PVC? PVC,
le polypropylène.
Ah, polypropylène. Eh oui, pas prendre de polypropylène.
Mais non.
Eh oui. Laine, oui, mais pas propi, quoi.
On revient dans un instant.
On revient dans un instant.
On aura Francis au téléphone. Alors, Francis a une question à nous poser sur le revêtement de sol.
Oui.
On est à peu près dans le même sujet et on en parle dans un instant. Dans une minute, nous sommes de retour. Je vous rappelle qu'on évoque les nouveaux revêtements de sol textile ce matin avec notre invité Christophe Pouille et Christian PC, bien évidemment. C'est la maison et on est là jusqu'à 8h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Le retour de votre maison sur RMC. On évoque ce matin avec Christian Pessé les nouveaux revêtements de sol textile.
Oui,
Christian.
Nous sommes avec Christophe Pouille, porte-parole ce matin de l'UFTM, l'Union Française des Tapis et Moquettes. Et il est par ailleurs DG adjoint de Balzan, qui est une grande marque française de moquettes.
Et vous vous occupez aussi des tapis.
Nous avons aussi effectivement une division tapis, puisque un tapis, ce n'est guère que...
Un morceau de moquette.
Un morceau de moquette.
Exactement.
Voilà. Bon, qui n'est pas collé, qu'on peut enlever, remettre, etc. C'est joli, les tapis, moi, sur du parquet, je trouve ça très sympa. Voilà. Et puis en plus, il y a plein de revêtements, plein de couleurs. Nous avons Francis au 32-16, messieurs, dames. Bonjour, Francis.
Bonjour, messieurs.
Oui, bonjour, Francis.
Monsieur Francis, bonjour, bienvenue.
Bienvenue à vous, merci.
Alors, vous êtes président d'un club de billard, c'est ça ?
Ouais. À Chartres.
À Chartres. Oh là 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 là. Christian, je ne sais pas si c'est un spécialiste, mon cher Francis. Je ne sais pas si vraiment. Il va pouvoir...
En termes de billard, je ne vais pas pouvoir vous conseiller. D'ailleurs, ce n'est pas le cas, puisque vous êtes président d'un club de billard. C'est plutôt vous qui pourriez me donner des leçons.
Plutôt billard français, billard américain ?
Ben, restons français, je m'appelle Francis, donc français.
Ah, d'accord, donc le puriste, les trois boules, d'accord.
Oui, oui, c'est ça. Ça fait une dizaine d'années que je suis président et ça fait 50 ans que je suis au club.
Bravo, génial, mais... bravo. Alors quel est votre problème?
Ma question ne concerne pas le billard, mais on a refait, c'est une salle qui est à Chartres, on a refait la partie détente avec un bar, forcément, et on a enlevé le sol, c'était des dalles en PVC. Qui datait d'il y a au moins 25 ans.
J'espère que vous n'avez pas fait ça tout seul, comme ça, comme un grand, sans prendre de précautions.
Non, non, mais les dalles n'étaient pas dans la fameuse partie qui doit être...
Oui, non, mais quand vous les avez, si vous les avez enlevées vous-même, il y a des risques d'amiante hein, dans la colle. Il faut prendre à ce moment-là, au minimum un bon masque de protection. Hein. Je dis ça comme ça en passant. Oui.
Pas de problème, oui. Ça a été fait dans les règles.
D'accord.
Mais ma question, si vous voulez, comme on a prévu de refaire le sol, on a fait faire des duits, bien sûr, et on nous a proposé un PVC U4P3, je ne sais même pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. Mmh. Et puis, par contre, un vinyle.
Oui.
Un
vinyle. C'est la même chose.
Et ma question était, j'aimerais avoir votre avis, comme c'est un sol... d'entrée d'un club de billard où il y a quand même 70 personnes, hein.
Oui.
Il y a du va-et-vient, et est-ce qu'il n'y aurait pas, peut-être, c'est le moment d'en parler puisque vous êtes dedans, un autre type de revêtement qu'on pourrait mettre à la place?
Voilà. Je pense que
si celui-là est bien.
Oui, mais il est pas mauvais. Simplement, c'est relativement sonore. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de monde dans cette pièce, ça va être plus sonore. Alors, on parle moquette ce matin. Moi, ma question va être donc effectivement pour Christophe. Est-ce qu'il y a des solutions pour des pièces comme ça qui sont à forte utilisation? Il y a des solutions moquettes. On parle de classes d'usage, non?
Alors effectivement, il existe plusieurs classes d'usage. On va retrouver dans la moquette, pour tout ce qui va être très haute résistance, des U3P3. On va pouvoir rajouter une petite lettre, que le S, qui va dire le traitement de la salissure.
Pour préciser, U, ça, c'est le classement UPEC, hein, ça. Hein.
Tout à fait.
U, c'est usure. P, c'est poinçonnement. Mm-hmm. Ensuite, c'est résistance à l'eau, E, et C, c'est la résistance aux produits chimiques. Hein. Je me permets d'apporter cette précision. Donc là, on vous a proposé de l'U4P4, c'est effectivement résistant.
Tout à fait.
Ouais, l'autre,
oui.
L'autre, c'est un vinyle de 4 mm d'épaisseur, quand même.
Oui, mais l'épaisseur ne change pas. C'est les classements qui comptent. Alors, quelle est la différence, on va dire, avec ce qu'on appelle les classes d'usage, vous savez, avec la petite maison, avec les petits bonhommes? Ça, c'est pour la moquette ou c'est aussi pour le vinyle?
Alors pour le vinyle, j'avouerai que je laisserai nos collègues du vinyle en parler. Pour la moquette, on a effectivement ces classes d'usage avec de l'U3P3 qui est le classement maximum que peut obtenir une moquette. Il n'existe pas en fait de catégorie au-delà. On a abordé la notion d'acoustique, on peut aborder la notion de confort à la marche, mais ce qui est aussi important pour notre auditeur dans son club de billard, c'est de se dire qu'il existe aujourd'hui en solution textile des dalles spécialement faites pour en fait brosser un petit peu les chaussures, faire de comme on le voit souvent dans les hôtels ou dans les aéroports, des progressions qui vont s'assurer que quand vous allez rentrer dans le cœur de la pièce, vos chaussures seront donc déjà propres.
Ah, ça fait une sorte de vestibule de nettoyage.
Pédiluve. Oui.
C'est le pédiluve sec.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et alors là, qu'est-ce qu'on met? On met plutôt des tapis plats, ce qu'on appelait de l'aiguilleté autrefois, non?
Donc vous avez des moquettes avec un coefficient abrasif un petit peu différent, qui sont pas celles sur lesquelles vous vous allongez pour bouquiner, mais plutôt effectivement pour nettoyer vos chaussures.
Parce que Francis,
oui, c'est Francis.
C'est Francis. Ça n'a pas changé. Dites-moi, c'est une salle de détente en quelque sorte, vous m'avez dit, c'est ça?
Oh, c'est la salle qui correspond à l'entrée avant de rentrer dans la salle. Et là, il y a des chaises, bien sûr, il y a un bar pour pouvoir pas.
Bah, ça serait peut-être plus sympa d'avoir un vêtement textile. Je veux pas servir la soupe à notre invité, mais plutôt qu'un vinyle qui est un peu froid, non? Qui est pas très chaleureux.
Bah, je sais pas. Je pose la question pour avoir des idées supplémentaires.
Ouais.
Je ne sais pas encore arrêter.
Comme l'a dit Christian, je crois que ce qui est très important, c'est d'imaginer le confort de la clientèle rendant visite à votre établissement. Et le confort passe notamment par une bonne gestion de l'acoustique. Et la transmission du son dans une pièce dépend énormément de l'aptitude que cette vague sonore peut avoir à rebondir sur le sol, sur les murs, sur le plafond. Donc, si vous ne traitez pas l'acoustique par le sol, vous allez devoir la traiter différemment. Et ça, ça va être d'autres budgets.
Okay, voilà Francis. Merci beaucoup Christian Fouille, en tout cas, d'avoir été avec nous. Christian, pour terminer ce week-end des experts, c'est votre coup de gueule.
Oui, classiquement, hein, contre l'absence d'obligation d'installer un détecteur de monoxyde de carbone dans les logements. Il y a des accidents tous les ans. Chaque année, vous me voyez dénoncer cette triste réalité qui fait que des centaines et des centaines de personnes sont victimes. On a pu obtenir, après pas mal de bagarres, y compris à cette antenne, en 2016, par la loi de Morange, que soient rendus obligatoires les détecteurs de fumée. Eh bien, maintenant, il faut faire la même bagarre sur les détecteurs de CO, ce redoutable monoxyde de carbone. Vous savez, c'est un gaz invisible, inodore, et qui génère des troubles neurologiques graves, souvent irréversibles et parfois mortels. Sa cause, c'est toujours des appareils de chauffage défectueux, appareils à flamme, notamment par une combustion imparfaite, ou l'utilisation de bois, par exemple, pas assez sec, de matériel mal entretenu.
Surtout dans les périodes de grand froid.
Évidemment, évidemment.
On calfeutre la maison et on met en route, on
ferme toutes les issues, si j'ose dire, et voilà les pépins. Alors les signes, c'est quoi? C'est pas forcément très clair, très évident, mais on commence à avoir mal à la tête, on a des nausées, on passe au vertige, et puis finalement
on s'endort,
on tombe, et donc on n'a pas eu le temps forcément de réagir. Alors dès les premiers signes, ce qu'il faut, c'est ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, ventiler au maximum et immédiatement appeler les secours. Ne pas se dire je vais prendre un peu d'aspirine, ça va se passer, etc. Parce que les conséquences peuvent être vraiment tout à fait dramatiques. La solution pour éviter cela, eh bien, c'est l'installation volontaire, puisque ça n'est pas obligatoire, d'un détecteur de CO. Vous en trouvez à partir de 15 euros. 15 euros, c'est rien pour sauver votre vie et celle des vôtres. En attendant que les parlementaires se décident à ce que ça devienne obligatoire, mais ça me semble complètement enterré. Alors je pousse à nouveau ce coup de gueule. Et je me demande, quand on sait que quelque chose peut vous tuer et que vous savez où ça se passe, est-ce que ça ne s'appellerait pas de la non-assistance à personne en danger par hasard? Je pense que les parlementaires ferait bien d'y réfléchir et se mobiliser sur ce sujet, parce qu'ils ne pourront pas dire on ne savait pas. Ils ne pourront pas dire ils ne savaient pas.
Christian, au-delà du fait que ça ne coûte pas cher un détecteur de fumée, où doit-on l'installer?
Alors on doit l'installer dans les pièces où il y a un chauffage qui est censé pouvoir produire ce CO. Donc il faut
Plus on le met près, il se mettra en route rapidement.
C'est à la différence du détecteur de fumée où justement on ne le met pas dans la pièce où il y a un chauffage, puisqu'il peut dégager accidentellement de la fumée sans que ce soit un incendie et que ça se déclenche. Donc là c'est l'inverse, on le place dans les pièces où il y a un risque, donc là où il y a des appareils de chauffage. Et surtout faites entretenir vos chauffages, les chaudières c'est bien obligatoire, la cheminée à foyer ouvert évidemment ça ne l'est pas, l'insert ça ne l'est pas, mais faites entretenir vos systèmes de chauffage, c'est votre sécurité.
Christian, merci beaucoup, on sera là samedi prochain, bien évidemment, vous le savez, la maison chaque samedi 7h-8h sur AMC. Alors dans un instant, la météo, les infos, et puis ce sera Christian Eka qui nous rejoindra pour notre rendez-vous Forme Santé, et puis on enchaînera ce week-end des experts avec la vie numérique et Raphaël Grably. Bon week-end avec nous sur AMC, on revient dans quelques instants, à tout de suite.